Le débat du jour.
William Delesseux.
Bonsoir et bienvenue sur RFI. C'est la rentrée pour le débat tous les soirs sur notre antenne, 19h30, heure de Paris, 17h30. En temps universel, le rendez-vous des experts, des chercheurs, des historiens pour comprendre l'actualité de votre monde. Ce lundi, et pour commencer cette nouvelle saison, direction le Liban, Emmanuel Macron se rend une nouvelle fois à Beyrouth. Atterrissage prévu ce soir, comme il l'avait promis, après l'explosion qui a ravagé le port de la capitale libanaise. Visite du président français le jour du centenaire de l'État du Grand Liban, fondé en 1920. Pas de fête, pas de cérémonie pour cet anniversaire. La plaie est toujours béante, ouverte à Beyrouth. Elle date de ce mardi après-midi, il y a près d'un mois, le 4 août. Ce jour-là, d'après les premiers éléments, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium explosent. Bilan, 188 morts, une dizaine de milliers de blessés, des maisons et des immeubles à terre. De quoi aggraver encore un peu plus la situation économique d'un pays déjà au bord du gouffre. Plusieurs Libanais continuent de réclamer un changement politique. Le régime du président Michel Aoun est jugé à bout de souffle par des manifestants qui rejettent les solutions proposées par une élite corrompue, d'après eux. Et après la démission d'Hassan Diab, le chef de l'État a nommé aujourd'hui un nouveau Premier ministre. Son nom est Mustapha Adib. Quel est son profil? Le gouvernement qu'il formera pourra-t-il reconstruire le Liban? Quelles sont les attentes des Libanais? Faut-il changer de régime politique? Comment le Liban peut-il se réformer et sortir de la crise? Nous en débattons pendant une demi-heure sur RFI en direct avec nos invités. En studio avec nous, Mounir Khom, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du Liban. Vous avez écrit et publié chez l'Armateur en 2012 pour une troisième république libanaise, étude critique pour une sortie de Taef. À vos côtés, Jean-Pierre Milelli, vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Paris, spécialiste du Proche-Orient. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
En ligne, nous retrouverons également Eric Verdeil, professeur de géographie et d'études urbaines à Sciences Po Paris, chercheur au Centre d'études des relations internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre dernier ouvrage, l'Atlas du Liban, les nouveaux défis, paru en 2016 aux presses de l'Institut français du Proche-Orient. Première question pour vous, Eric Verdeil. Vous connaissez bien Beyrouth. On compte 300 000 sans-abri après l'explosion. Un mois plus tard, dans quel état Emmanuel Macron va-t-il trouver la capitale libanaise?
Alors, le chiffre de 300 000 sans-abri qui a été évoqué immédiatement après l'explosion doit certainement être nuancé. Beaucoup de gens ont perdu effectivement l'usage de leur appartement, au moins temporairement, parce que énormément de vitres ont explosé. On estime qu'au moins un tiers effectivement des immeubles et des appartements de la capitale ont été immédiatement hors d'état. Mais en réalité, les dégâts vraiment sévères concerne une fraction beaucoup plus limitée, même s'il n'y a pas eu de chiffres très précis concernant cela. En tout cas, il est vrai que si pour l'instant vivre sans vitre à Beyrouth reste encore possible, très rapidement cette situation va devenir très très difficile. Je ne dis pas ça pour minimiser l'ampleur des dégâts, mais simplement pour qu'on s'attache à des chiffres qui soient plus tout simplement plus réalistes.
Mais c'est quoi la photographie de Beyrouth aujourd'hui?
Aujourd'hui, Beyrouth, dans sa partie est, a subi une commotion d'une ampleur effectivement inégalée. Les dégâts sont d'une nature complètement différente de ceux de la guerre civile, où c'était surtout des destructions qui étaient localisées dans le centre-ville et le long d'une zone qu'on appelle la ligne de démarcation. Là, les quartiers touchés finalement s'étendent sur, je vous disais, à peu près un tiers de la ville de Beyrouth. Et on estime que 8 000 immeubles ou 10 000 immeubles ont donc été touchés dans ce cadre-là. Et cela représente effectivement une perturbation sans comparaison. Au sein du quartier le plus proche du port, c'est-à-dire dans un rayon d'environ 1 km du port, beaucoup d'immeubles sont effectivement complètement inutilisables aujourd'hui. Il s'agit à la fois d'immeubles anciens, qui d'ailleurs pour certains présentaient un un caractère patrimonial tout à fait remarquable. Mais pour d'autres, il s'agit aussi de constructions nouvelles, en particulier de grandes tours qui avaient été édifiées ces dernières années et dont toutes les vitres ont volé en éclats, dont tous les réseaux électriques, les différents systèmes d'approvisionnement et de fonctionnement
donc,
sont mis hors d'état.
Des dégâts donc très importants. Mounir Korm, il s'est écoulé presque un mois entre la première visite d'Emmanuel Macron et la visite qui commence ce soir. Est-ce que les choses ont un petit peu avancé du côté de l'aide humanitaire notamment ?
Du côté de l'aide humanitaire, oui, et assez rapidement, on a vu des secours arriver dès le lendemain de l'explosion, et notamment des secours français, mais pas que, de beaucoup de pays du monde. Avec cette nouveauté qui a été qu'elle a beaucoup été transmise directement à des ONG plutôt que de passer par les services de l'État. L'aide s'organise. Il y a aussi quand même eu, et en premier lieu, l'aide des Libanais envers eux-mêmes. Et on a vu une grande solidarité au sein de la population avec beaucoup de gens qui ont été aidés sur place, notamment pour les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, pour les aider à se reloger déjà et ensuite à réparer les premiers dégâts. Et cette solidarité, elle est assez indispensable parce que l'explosion, elle vient se greffer à une situation économique qui était déjà catastrophique. Donc, effectivement, on peut dire, oui, les gens peuvent rester dans leur appartement sans vitre, mais enfin, quand les gens entraient déjà sous le seuil de pauvreté, étaient déjà dans une situation critique d'un point de vue économique, avoir des dégâts matériels en plus peut être un problème peut-être de trop sur les épaules.
Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire un premier bilan de l'aide de cette aide humanitaire ? Est-ce que c'est un des enjeux de cette visite, un mois après ?
Oui, certainement. Après, je pense que l'enjeu, l'aide humanitaire, c'est primordial, c'est important. Elle est arrivée rapidement. Il y a eu une conférence internationale qui s'est mobilisée rapidement après, avec des montants qui sont
250 millions d'euros trouvés effectivement par les Nations Unies,
qui sont déjà une très bonne somme. Pas, il en faudra plus évidemment, mais qui est déjà une très belle somme. L'enjeu, je pense, aujourd'hui au Liban, plus que l'aide humanitaire immédiate, parce que celle-là arrivera et la solidarité locale et internationale va jouer comme dans la plupart des catastrophes, elle est principalement de prendre les mesures les plus rapides pour juguler la crise économique et les mesures de changement politique qui sont attendues par la population.
Jean-Pierre Milevi, je voulais vous donner la parole avant qu'on écoute Emmanuel Macron lors de sa première visite. Jean-Pierre Milevi, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui est prévu pour cette reconstruction ? Est-ce que cette reconstruction, elle va être encore plus difficile qu'après la guerre civile ? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ?
Ce sera un défi aussi important parce que il y a certes eu des dégâts matériels, mais il y a surtout le port qui est la raison d'être de Beyrouth depuis l'Antiquité. Ce n'est pas une ancienne capitale du Proche-Orient comme Damas, mais c'est une ville qui a connu son rayonnement au XXe siècle à partir de son statut de port. Ce port permettait des importations sur lesquelles repose beaucoup l'économie libanaise. Alors certes, il y a la ville de Tripoli au nord qui a un port plus modeste. Par exemple, il y a 16 grues à Beyrouth, il n'y en a que deux à Tripoli pour décharger les conteneurs. Donc Tripoli ne peut pas remplacer Beyrouth. Et le port étant détruit, tant que le port est détruit, les importations ne pourront plus se faire au même rythme. Il y aura des importations, certes, par l'aéroport, et puis il y aura peut-être aussi une sorte de contrebande, voire de trafic qui va être redéveloppé, ranimé, pour ainsi dire, à la frontière libano-syrienne. Mais tant que le port n'est pas réparé, et il y a un coût à cette réparation, et il y a plusieurs milliards,
on y viendra effectivement.
On ne peut pas envisager un redémarrage simplement de ce qu'était l'activité le 3 août au soir.
Éric Verdeil, vous êtes toujours en ligne avec nous. Est-ce qu'on a une petite idée de quand est-ce qu'on pourra reconstruire justement le port, le cœur de Beyrouth ?
Alors, selon des informations qui ont été publiées ce matin dans la presse, en fait, le port de Beyrouth a déjà repris une partie de son activité. C'était estimé à 45% de son niveau précédent. En réalité, une partie du port a été effectivement complètement détruite. C'est notamment la zone qui se trouve autour du troisième bassin, là où se situaient les grands silos céréaliers. Et c'est là aussi qu'on importe un certain nombre de marchandises en vrac, ainsi que, par exemple, la viande. Mais en revanche, bonne nouvelle, il semble que le port des conteneurs n'a été que très peu touché. Et donc en réalité, le problème est plutôt un problème, derrière administratif et bureaucratique, c'est-à-dire que les douanes, par contre, les bâtiments des douanes ont été complètement soufflés. Donc la marchandise peut arriver, mais la question qui va se poser, c'est... celle des formalités d'importation, et sur ce plan, je ne sais pas exactement quelle est la situation qui sera trouvée.
Donc cet apport encore largement dysfonctionnel. Le 6 août, dans les rues de Beyrouth, Emmanuel Macron avait été allé à la rencontre de certains Libanais 2 jours après l'explosion. Il avait été interpellé dans les rues de la capitale. On l'écoute.
Surtout ne donnez pas de l'argent à notre gouvernement corrompu, s'il vous plaît.
Ne vous inquiétez pas.
On n'en peut plus, on est à bout.
Je sais votre détresse et je comprends votre colère. Je vous garantis, c'est que cette aide, elle sera transparente. Elle ira sur le terrain, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption.
La corruption au plus haut niveau de l'État, c'est l'accusation des manifestants libanais qui demandent un changement de régime. On va y venir, mais d'abord, Jean-Pierre Milelli, est-ce que cette aide internationale, selon vous, peut être en dehors de tout soupçon de corruption ?
Si on en croit les propos de Jean-Yves Le Drian, qu'il a maintes fois répété, il est exclu de faire un chèque en blanc à un système qui est corrompu, enfin c'est de notoriété publique, sans compter qu'il y a un atout dans le système politique libanais qui est le Hezbollah, qui est considéré notamment par une flopée de pays comme une organisation terroriste. Donc il y aura des conditions à cette aide. Le problème étant que donc on va se heurter à des problèmes graves tels que celui du Hezbollah, mais aussi à des réformes qui demandent du temps, du souffle, de la volonté et des hommes courageux. Alors certes, on a eu quelque chose qui pourrait être comique si la situation n'était pas aussi tragique. On a eu des déclarations, notamment du président du Parlement, Nabih Berri, réclamant donc l'abolition du confessionnalisme politique, et de Michel Aoun qui a plaidé pour un État laïque, Daoula Madaniya, comme on dit en arabe. C'est comique, puisque ce sont des gens qui ont fait toute leur carrière justement en jouant cette carte confessionnaliste.
On va y venir justement au changement de régime dans la suite de cette émission. Mon IRCOM, on parle effectivement d'un régime très corrompu. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de Libanais considèrent que la classe politique, l'élite politique est corrompue au Liban ? Je sais que la question est vaste, mais on essaye de résumer un peu.
En fait, c'est un système qui date de la fin de la guerre civile. Ce qu'il faut déjà avoir en tête quand on approche cette problématique, et c'est important quand on affirme ou on discute de la situation libanaise, c'est que la situation ne date pas d'il y a 2 ans, elle date ou d'il y a 3 ans, et les acteurs en place sont les mêmes depuis 30 ans. Et les mêmes qui sont décrits aujourd'hui, qui ont été très largement soutenus également. Et c'est un système de corruption institutionnalisé qui s'est mis en place, en fait, sur l'intégralité du pays, et qui va, on va dire, du sommet de l'État à la répartition des fonctions, à la plus petite formalité administrative. C'est un système qui est généralisé.
Au Liban, tout s'achète, c'est ce qu'on entend, c'est vrai,
tout
ça ?
Tout s'achète, du permis de conduire à son poste administratif, une ambassade, une fonction dans un ministère, voire un poste de Premier ministre s'achète. Si on se rappelle des conditions d'arrivée du Premier ministre en 1993, à l'époque Rafik Hariri, c'est très largement financé. Et donc ça va de la petite échelle à la plus grande. Et c'est un système institutionnalisé, et qui a été institutionnalisé au point d'être un véritable système financier sur lequel l'ensemble de, on va dire, l'oligarchie libanaise a vécu. Donc que ça soit la classe politique, qu'elle soit issue de la guerre civile, donc des anciens miliciens, qu'elle soit nouvellement arrivée, mais qu'elle soit aussi classe, classe supérieure financière, qui a vécu de ce système, voire inférieur aussi, puisque c'était un système de Ponzi mis en place au niveau de la Banque centrale.
Donc une pyramide, hein, qu'on explique bien.
Une pyramide de Ponzi, où les banques ont fait payer des intérêts diriment à l'État libanais par le biais de la Banque centrale, en livres libanaises, et verser des intérêts moins élevés, mais tout de même très élevés, en dollars, tout en maintenant un taux de change fixe. Et le système a permis d'enrichir tous les gens qui avaient moyen d'avoir une rente. Et ça a fait vivre le pays au-dessus de ses moyens pendant 30 ans. Ça a maintenu au pouvoir beaucoup de gens, ça a enrichi des gens, et c'est ce système qui s'est effondré depuis octobre. Et en fait, la corruption existe depuis longtemps, mais elle est devenue insoutenable quand ce système est tombé. Parce qu'une fois que ce système tombe, on va dire, la cohorte acide des gens vivaient avec ce système tant qu'ils avaient les miettes. Aujourd'hui, il n'y a plus de miettes pour personne, le taux de pauvreté explose. Et les gens meurent un peu littéralement de faim.
Mais justement, pourquoi ça a explosé, Jean-Pierre Minelli ? Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Oui, complètement. Je voudrais qu'on prenne un cas concret. On a donc appris, à la faveur des deux déplacements d'Emmanuel Macron, ça a eu au moins cet intérêt-là, qu'après la démission de Hassan Diab en août, suite à l'explosion...
Le Premier ministre, président du Conseil des ministres,
selon l'appellation de la Troisième République française, on a appris donc que un nouvel homme politique devenait le Premier ministre, ce à quoi avaient donné leur accord les premiers ministres précédents. Et on découvre qu'il s'agit de M. Mustapha Adib, qui était ambassadeur en République fédérale allemande, qui n'est pas un diplomate de carrière, pourtant il y a des diplomates de carrière au Liban comme dans tous les pays, mais qui avait été placé là parce que c'est un homme de Najib Mikati, qui est un de ces barons libanais qui ne sont pas forcément au premier plan, mais qui sont très influents, qui ont, si je puis dire, deux casquettes, à la fois celle d'homme politique local, donc lui c'est à Tripoli, la capitale sunnite du nord du pays, et par ailleurs qui a fait fortune dans la téléphonie. On voit déjà que on a l'impression que dans l'embarras devant la lumière des projecteurs du monde entier suite à l'explosion, les politiciens libanais, ceux que j'ai mentionnés notamment tout à l'heure, ont un petit peu pris de court et ont décidé d'aller chercher dans leurs amis une personne qui va pouvoir représenter ce renouveau. Mais ce monsieur n'est pas en mesure, je ne veux pas être injuste avant même qu'il ait pris ses fonctions, mais il n'est pas en mesure de représenter un renouveau. Il pourra tout au plus peut-être un petit peu jeter de la poudre aux yeux et puis gagner du temps.
On y viendra sur le profil de ce nouveau président du Conseil des ministres. Le président français, qui est Emmanuel Macron, qui s'est également montré offensif face à la classe politique libanaise, c'était toujours le 6 août lors de sa première visite. On l'écoute.
Nous mettrons aussi en place une gouvernance claire et transparente pour que l'ensemble de cette aide soit directement acheminée aux populations, aux organisations non gouvernementales, aux équipes sur le terrain qui en ont besoin, sans qu'aucune opacité, aucun détournement ne soit possible. Je le dis avec à la fois beaucoup d'humilité et beaucoup d'exigence. L'humilité d'un président français qui n'a pas à dicter à des dirigeants libanais ce qu'ils doivent faire. L'exigence d'un ami qui se précipite quand les temps sont durs, mais pas pour donner des chèques en blanc à des systèmes qui n'ont plus la confiance de leur peuple. Et j'attends des autorités libanaises des réponses claires sur leurs engagements. L'état de droit, la transparence, la liberté, la démocratie...
Éric Verdeil, vous êtes toujours en ligne avec nous. On a beaucoup parlé de l'attitude d'Emmanuel Macron durant sa visite. Certains l'accusent d'ingérence, voire de néocolonialisme dans la gestion de cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que les réactions au Liban ont été très diverses. Pour certains, peut-être nostalgiques de l'époque du mandat français, et en tout cas certainement révulsés par les pratiques actuelles de la classe politique.
Il y a même une pétition d'ailleurs, pardonnez-moi, il y a une pétition, voilà, je crois, qui est signée par plusieurs milliers de Libanais pour demander le retour du mandat de la France, comme il y a 100 ans en fait.
Voilà, bon, alors je pense qu'il s'agit d'une fraction assez minoritaire de la population, mais ça donne un petit peu un état d'esprit. Je dirais que de l'autre côté, il y a eu aussi pas mal de réactions négatives évoquant une forme de néocolonialisme de la part de la France, appelant au contraire les Libanais à gérer eux-mêmes leurs problèmes et faisant en tout état de cause remarquer que la France, qui se présente aujourd'hui comme une médiatrice pour résoudre la crise libanaise, a été impliquée depuis les années 90 au moins dans quelque part le maintien de ce système. Hein. Tout à l'heure, on évoquait l'arrivée de Rafik Hariri au pouvoir. Il s'est prévalu et il a bénéficié largement de l'appui de Jacques Chirac, et son fils, de même, a bénéficié de l'appui de notre diplomatie. Alors, il semble qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron prenne un tout petit peu plus de distance à l'égard de ce groupe politique, le Courant du Futur et ses représentants. Néanmoins, la nomination qu'on vient d'évoquer du nouveau Premier ministre semble aussi une décision qui est prise pour complaire un petit peu à l'engagement d'Emmanuel Macron, pour donner le change. Et donc, on a aussi l'impression que ce n'est pas une décision radicale, même si Emmanuel Macron s'apprête visiblement à adouber cette nouvelle personnalité.
Mounir Korm, on est demain 100 ans après la création du Grand Liban. L'indépendance est lieu en 1944. Est-ce que la date de cette visite demain, jour du centenaire, est-elle vraiment bien choisie ?
Non, personnellement, je la trouve un peu malheureuse. Je trouve bien, évidemment, l'envoi des secours, la présence auprès du Liban, la manifestation de soutien, l'envoi d'aide humanitaire. Revenir le jour de la déclaration du centenaire, c'est quand même le jour c'est aussi la mise en place du mandat français. L'indépendance du Liban, c'est le 22 novembre 1943. Et donc, c'est pas une date qui correspond. Dans la logique de construction d'un État indépendant et fort, je pense qu'on rend pas service au Liban. Si on veut construire la souveraineté du Liban, à renvoyer à des dates qui font référence à cette période, ou même à avoir une intervention trop paternaliste dans le ton. Je dis ça avec modération, parce que Emmanuel Macron, dans son interview, son échange avec les journalistes, a essayé à l'époque, le 6 août, justement, dans les extraits que vous passez, d'essayer de garder cet équilibre permanent, qui est évidemment pas facile, mais l'approche...
Et le symbole est là, quand même, Jean-Pierre Mélély.
Nécessairement.
Je partage pas ce point de vue. L'État libanais, la République libanaise est une création française qui ne s'est pas faite dans l'innocence. Je pense que sortir de la Première Guerre mondiale n'était pas une situation où on pouvait se permettre d'être innocent. C'est une réalité. Ça explique la francophonie libanaise. Ça explique les liens forts. Emmanuel Macron a été, discret. Il l'a mis, je dirais, en veilleuse. Il n'a pas du tout bombé le torse en évoquant la grandeur française passée. Mais c'est intéressant, justement, de revenir à l'histoire, de ne pas ignorer l'histoire, pour bien comprendre comment, justement, ce nation building à la française a abouti au résultat que nous constatons 100 ans plus tard. C'est-à-dire comment on a créé pour satisfaire un lobby à l'époque chrétien, surtout maronite, on a créé cet État qui devait être évidemment un pied-à-terre pour l'influence française, ça ne fait aucun doute, ça, c'est d'ailleurs toujours d'actualité, même peut-être d'une autre manière aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est l'État du Grand Liban, parce qu'il y avait aussi un projet de Petit Liban qui eût été uniquement maronite, et ensuite, on a décidé d'y adjoindre les régions côtières et les plaines de la Bekaa du Sud et Tripoli, ce qui fait que est née une situation qui à long terme a été différente de ce que l'on attendait, c'est-à-dire qu'on a eu une prééminence démographique musulmane qui se manifeste aujourd'hui notamment dans la puissance du Hezbollah. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment cette greffe française au bout de 100 ans donne des résultats qui sont contrastés, mais je ne pense pas qu'on puisse imputer ces problème uniquement à la France.
Alors aujourd'hui, Mustapha Adib a été nommé Premier ministre du Liban. Que sait-on à propos de celui qui était ambassadeur du pays en Allemagne? Éric Verdeil, pardonnez-moi, que sait-on à propos du profil du nouveau président du Conseil des ministres?
Oui, bien, on sait que c'est un universitaire, effectivement, comme ça a été dit à l'instant, qui a été nommé ensuite ambassadeur en raison de sa fidélité politique à un des barons donc du système libanais, Najib Mikati, qui était un ancien premier ministre. Je pense que avant dimanche matin, à peu près personne ne connaissait cette personne, donc Mustapha Adib, au Liban, même parmi les commentateurs politiques. C'est un inconnu total.
Un analyste disait que c'était le chef. C'est comme si on nommait le chef pâtissier du Titanic. Est-ce que vous partagez cette formule?
Oui, alors il y a deux aspects. C'est-à-dire, il y a d'une part, cet homme est un inconnu, c'est quelqu'un qui n'a aucune surface politique, aucune autonomie, aucun poids personnel. Et d'autre part, donc de ce point de vue-là, il est assez proche finalement du profil du précédent Premier ministre, M. Hassan Diab, même si politiquement, il n'est pas tout à fait dans le même réseau politique. Et deuxièmement, effectivement, quels seront ses moyens donc pour réparer les voies d'eau du Titanic, des voies d'eau qui sont extrêmement importantes et très graves. Là-dessus, on n'en sait rien, il n'y a pas de programme politique, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, pour l'instant, je pense que tout le monde est dans une grande perplexité à l'égard de cette nomination.
Il a en tout cas promis qu'il allait nommer une équipe. Mustapha Adib, c'est un peu Mister Nobody, Mounir Korm.
Oui, mais alors quelque part, au stade où on est le Liban, là, c'est presque plus important. Comme on l'a dit, son prédécesseur était peu connu aussi du grand public. Il a échoué, mais il avait établi un plan de réforme, notamment un plan de réforme financière qui est vraiment l'urgence, à mon avis, ce sur quoi on devra juger le prochain gouvernement. Ce plan a été accepté par le FMI et ce plan a été mis en œuvre. Le directeur général du ministère des Finances a dû démissionner à cause d'une levée de bouclier politique et de l'oligarchie. Et le succès vraiment d'un gouvernement, à la limite, quelle que soit la personne qui a sa tête, et quels que soient les partis qui le soutiennent aujourd'hui, c'est celui qui arrivera à enclencher ce mouvement-là.
Le fait qu'il arrive d'Allemagne, c'est pas un regard neuf?
Si, et puis les jeunes, oui, peut-être, mais après, encore une fois, c'est la pratique qui nous dira si la personne a la capacité de faire ou pas. Le problème de son prédécesseur, c'est qu'il a rebroussé chemin et il a plié quand il a eu face à lui, on va dire, le condominium politique, enfin vraiment la chape de plomb qui gouverne le Liban, qui s'est opposé à la mise en œuvre des réformes, parce que si on met en place les réformes, on se débarrassera de ces personnes. Et le soutien de la France et la nécessité d'arriver là, et c'est surtout sur cet enjeu-là qu'il est attendu, et le succès s'est attendu là. Ses chances de succès paraissent minces aujourd'hui. Maintenant,
Jean-Pierre Milevi, vous lui souhaitez bonne chance à ce nouveau Premier ministre ou...
On ne peut que souhaiter bonne chance au Premier ministre et surtout à la population libanaise qui a vécu un anus horribilis, pour parler un petit peu latin. Je voudrais peut-être en conclusion attirer l'attention sur le fait que la France, évidemment, a des intérêts au Liban. Elle a aussi des intérêts dans la Méditerranée orientale. Souvenez-vous les insultes que Erdogan n'a pas hésité à lancer cette semaine contre les dirigeants français.
C'est jouer une carte dans la région que de s'investir au Liban aujourd'hui?
Très certainement, d'autant qu'il y a des... Souvenez-vous que le bateau, le navire turc s'occupe de forage gazier, d'où le problème avec la Grèce, et qu'il y a des intérêts importants, et que par ailleurs, je note que durant la conférence en visioconférence menée par Emmanuel Macron à l'aide de l'ONU, et la Russie et la Turquie étaient absentes.
Qui avait permis de lever, on le rappelle, 250 millions d'euros. Alors l'estimation pour la reconstruction aujourd'hui, elle est chiffrée entre 3 et 15 milliards de dollars. Éric Verdeil, vous êtes toujours en ligne avec nous. Quelle est l'urgence de la reconstruction aujourd'hui? Que faut-il reconstruire en premier?
Bien, je crois que la poursuite des travaux dans le port pour permettre un redémarrage des importations très importante. Je pense que il y a des urgences en termes de construction de consolidation de bâtiments je pense que l'importation de vitres par exemple c'est pas anecdotique, hein. Le Liban n'en produit certainement pas assez à lui tout seul. Mais je partage aussi ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que relancer des travaux, faire des travaux publics sur les bâtiments, c'est important, mais
attendez, le temps nous manque, j'aimerais qu'on entende.
Oui, j'aimerais le blocage du système bancaire aujourd'hui. Ouais. Et il faut absolument trouver une solution à cela, sinon il n'y aura pas de reconstruction.
Mounir Korm, est-ce qu'il faut changer le régime politique comme tout le monde a l'air de l'appeler aujourd'hui pour redresser l'économie.
Alors, je pense que malheureusement, dans l'absolu, oui, mais malheureusement, l'urgence, c'est changer le système politique. Il faut le faire, ça va prendre du temps. Il faut des élections sur une base de loi électorale juste et représentative. Ça va prendre un petit peu de temps. Et là, l'urgence, c'est que les gens, à la fin de l'année, puissent continuer à acheter des médicaments et acheter à manger. Et pour ça, c'est s'attaquer immédiatement à la réforme du système bancaire, à la réforme de la Banque centrale. Il faut arrêter l'hémorragie financière immédiatement au Liban, et c'est l'urgence absolue.
Merci beaucoup à vous, Mounir Khor. Merci également à Jean-Pierre Milleli. Merci à Eric Verdeil qui était en ligne avec nous, c'est la fin de ce débat. Merci à Florence Ponce et Raphaël Koussoul-Debey.